VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 2 janvier 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Début du procès pour corruption de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen, aujourd'hui à Paris.
En Gambie, Yahya Jammeh accuse la CEDEAO de lui déclarer la guerre.
Vague d'optimisme en République démocratique du Congo suite à l'accord signé par le gouvernement et l'opposition sous la médiation des évêques catholiques.
Un millier de migrants d'Afrique subsaharienne ont pris d'assaut dimanche la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta.
L'expulsion de 35 diplomates russes par les États-Unis est peut-être disproportionnée, estime un proche conseiller du président élu Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la menu déco pour l'instant, le journal.
C'est aujourd'hui que débute à Paris le procès pour corruption de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen et lui-même vice-président de la Guinée équatoriale. C'est le premier jugement en rapport avec l'affaire des biens mal acquis déclenchée par les ONG Sherpa et Transparency International. Les précisions, Timothée Donangmaï.
Il y a peu de chances que l'accusé se présente à la barre, mais on s'attend à ce qu'il plaide non coupable des chefs d'accusation de corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il est reproché à Théodorin Obiang Nguema d'avoir accumulé en France et dans d'autres pays occidentaux hôtels particuliers, véhicules de luxe, œuvres d'art et vins fins, entre autres, un patrimoine valant plusieurs millions d'euros qu'il aurait acquis en détournant les fonds publics de son pays, accusation qu'il a toujours rejetée. Ce n'est que la première étape, a fait savoir Maître William Bourdon, président de l'association Sherpa et conseiller juridique de Transparency International. Ces deux ONG sont parties en croisade contre deux autres dirigeants africains accusés de s'enrichir sur le dos de leur pays, le président congolais Denis Sassou Nguesso et le défunt dirigeant gabonais Omar Bongo Ondimba. En septembre, la Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice de la Haye pour demander la suspension des poursuites contre Théodorin Obiang Nguema, estimant que son immunité diplomatique avait été violée. Elle a obtenu la restitution d'un hôtel particulier de Paris, saisi dans le cadre de l'enquête, en affirmant qu'il fait partie du domaine de sa mission diplomatique. Toutefois, la Cour internationale de justice avait indiqué n'avoir aucun moyen de bloquer l'action judiciaire engagée en France.
Le président gambien Yahya Jammeh a accusé dans son discours de Nouvel An la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest de lui déclarer la guerre après la décision de la CEDEAO de placer des forces militaires en état d'alerte dans le cas où il refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 19 janvier. Jammeh, qui dit vouloir rester au pouvoir en dépit de sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre, remportée par son rival Adama Barrow, a aussi promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure. Dans cette allocution diffusée par la télévision publique, le président sortant avait initialement reconnu sa défaite avant de la contester quelques jours plus tard.
En RDC, l'accord signé par le gouvernement et l'opposition, la veille du jour de l'an sous la médiation des évêques catholiques, suscite une vague d'optimisme dans le pays après plusieurs mois de troubles liés à cette question. Il prévoit notamment le départ du pouvoir du président Joseph Kabila d'ici la fin 2017. Certains Congolais se disent sceptiques au vu des expériences précédentes. Timothée Donangmaï a joint à Louvain-la-Neuve, en Belgique, le professeur Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition.
La CENCO a fait son travail, mais néanmoins, elle n'est pas allée au-delà des aspirations du peuple congolais. Parce que j'explique, bon, que Kabila est arrivé fin mandat. On doit le conjuguer au passé. Mais je sais qu'il y a eu des concessions à faire pour qu'il reste encore pendant une année en fonction. Mais la Constitution ne le prévoit pas. Et donc, pour moi, Kabila, on vient le considérer comme ex-président et non comme président en exercice.
Ne vaut-il pas mieux un accord imparfait pour tenter de sortir le pays de la crise plutôt qu'une interminable querelle politique?
Il s'agit d'une crise artificielle, créée délibérément par les gens qui sont au pouvoir. Et que par conséquent, si nous devons suivre ces gens-là, et nous jouons sur le jeu, j'aurais voulu personnellement que Kabila arrive à faire mandat le 19 décembre, il devrait tout bonnement quitter le pouvoir et laisser la place aux autres. Il veut y demeurer jusque quand? Je suis presque convaincu, et je vous le dis, après une année, même d'ici quelques jours encore, la majorité présidentielle va évoquer d'autres prétextes. Ils vont nous parler de référendum. Kabila ne veut pas partir. Il n'a pas envie de partir. Et il ne partira pas.
Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition, joint en Belgique.
Le Tchad entame l'année 2017 sans être venu à bout des tensions sociales qui ont marqué l'année 2016. Depuis 4 mois, les fonctionnaires sont en grève à l'appel de leur syndicat pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et aussi dénoncer les mesures d'austérité prises par les autorités, ce qui fait planer sur les élèves et étudiants du pays la menace d'une année blanche. Le gouvernement a demandé aux enseignants de reprendre les cours dès le 3 janvier. Qu'en sera-t-il? Eh bien, Timothée Donangmaï a contacté à N'Djamena Younous Mahadjir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
Daniel, voilà, j'ai en train de planer là. Alors là, je suis convaincu que le 3, il n'y aura pas une école réellement ouverte, parce que les enseignants, la grande partie des enseignants qui sont sous la direction de nos syndicats, je suis convaincu qu'ils ne viendront pas, surtout que le gouvernement vient de décider une loi encore liberticide. Alors là, je suis convaincu que c'est difficile que les travailleurs puissent répondre à ce que le gouvernement dit.
Vous parlez de la loi disant que les jours de grève ne seront plus payés?
Oui, la loi, effectivement, c'est une loi liberticide. Du fait qu'elle a déjà été rejetée en 1996, elle est encore reprise en 2008. Et actuellement, c'est la troisième fois que le gouvernement l'introduit pour la remettre. Alors que chaque fois, nous, on la rejette parce qu'elle ne respecte pas les normes nationales et internationales. Alors, donc, on ne peut pas violer comme ça les textes nationaux et internationaux pour satisfaire seulement les vœux d'un individu qui est le président de la République.
Younous Mahadjir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, nous parlait de N'Djamena.
Un millier de migrants ont pris d'assaut dimanche la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta, et un policier a perdu un œil dans les heures qui ont suivi, ont indiqué les autorités locales. Un groupe de 1100 personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui voulaient gagner l'Europe s'est précipité sur la clôture, haute de 6 mètres, d'une manière extrêmement violente et organisée, a indiqué la préfecture de Ceuta. Aucun d'entre eux n'a réussi à passer de l'autre côté, sauf 2 migrants grièvement blessés qui ont été hospitalisés à Ceuta, selon la préfecture.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'expulsion de 35 diplomates russes par les États-Unis est peut-être disproportionnée, a déclaré hier un proche conseiller du président élu Donald Trump. Interrogé sur l'ordre donné par Barack Obama d'expulser les diplomates russes, Sean Spicer, futur porte-parole de la présidence américaine, a estimé qu'il fallait s'interroger sur l'ampleur de la réaction américaine. Donald Trump a mis en doute samedi la responsabilité de la Russie dans le piratage des réseaux informatiques du Parti démocrate qui est à l'origine de la décision du président Obama. Les services américains du renseignement doivent rencontrer sous peu le futur président pour le tenir informé de l'évolution de leur enquête.
En Turquie, plus de 24 heures après la fusillade qui a fait 39 morts, dont plusieurs étrangers, dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul, l'assaillant était toujours en fuite et les enquêteurs turcs n'avaient toujours aucun responsable à désigner. Un agresseur en cavale, aucune revendication, le flou règne sur l'identité et les motivations de l'auteur de cette attaque sanglante contre la Turquie, déjà secouée en 2016 par une tentative de coup d'État et une vague d'attentats meurtriers attribués aux djihadistes du groupe État islamique ou à la rébellion kurde.
En Syrie, les combats entre régime et rebelles se poursuivaient hier sur plusieurs fronts, risquant de mettre en péril une trêve parrainée par la Russie qui a obtenu un soutien mitigé de l'ONU à son initiative. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu jeudi à minuit, les violences, même si elles ont baissé d'intensité et restent sporadiques, n'ont pas cessé et ont fait des victimes. Accusant le régime de violation, des rebelles ont menacé de ne plus respecter la trêve. Des négociations de paix sont prévues fin janvier à Astana, au Kazakhstan, sous l'égide de Moscou et de Téhéran, parrain du régime, et la Turquie soutient des rebelles.
Israël a décidé hier de ne pas rendre à leur famille les corps de membres du Hamas palestinien tués lors d'attaques anti-israéliennes, mais de les enterrer, a annoncé le gouvernement.
Voilà pour le journal. La Minute Éco, Tatiana Mosso.
Investissement, la Chine continue d'avancer ses pions en Afrique. Le porte-parole du ministère chinois du commerce, Su Jinwen, a annoncé que les investissements directs non financiers sur le continent africain ont augmenté de 31% au cours des 10 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2015. Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, le nouveau patron des patrons ivoiriens, veut créer des champions nationaux. Cela passe notamment par une participation accrue des entreprises locales au grand marché. À 61 ans, le PDG de la Société ivoirienne de production animale et des moulins de Côte d'Ivoire préside la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire depuis début décembre. Au Tchad, fin 2015, déjà le gouvernement avait annoncé des mesures d'austérité, dont le gel du recrutement des fonctionnaires. C'est donc sans surprise que 16 mesures de réforme d'urgence ont été adoptées en Conseil des ministres extraordinaire dans le but de réduire les charges, d'augmenter les recettes et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Mais même si elles étaient attendues, ces mesures font grincer bien des dents.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonne année.
Commençons par la Fédération béninoise de Maracana et son Assemblée Générale.
Oui, c'était le week-end écoulé et moment pour le bureau sortant de faire le point de ses activités. À l'issue de ses travaux, c'est le président sortant qui a été reconduit pour 4 nouvelles années. Philippe Totondé, cette fois, a pour objectif de faire connaître cette discipline sur toute l'étendue du territoire et surtout de qualifier les écureuils pour la prochaine Coupe du Monde de Maracana qui aura lieu au Brésil en 2018.
À moins de 2 semaines du coup d'envoi de la CAN Gabon, de nouvelles listes ont été publiées. Le cas du Sénégal, et c'est une liste de 23 joueurs qui a été officialisée par Aliou Cissé.
Après une qualification sans faute, 6 matchs, 6 victoires, le sélectionneur sénégalais a désormais la pression au dos. Parmi les cadres de l'équipe, Khalilou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané ou encore Moussa Sow. Une absence remarquée, celle du milieu de terrain de Lille, Younous Sangaré. Mais la Ligue 1 reste tout de même bien représentée avec notamment les retours en sélection de Cheikh Mbeng et d'Henri Sévé. Les Lions qui débuteront leur CAN face à la Tunisie le 15 janvier à Libreville dans le groupe B. Ils seront également opposés lors de cette compétition au Zimbabwe et à Algérie.
On reste au Sénégal, Élysée, pour parler de la 9e journée de la Ligue 1.
Oui Idrissa, Eniari Tali a étrié le promu Tenguette 5 buts à 1. Avec ce succès, les Galactiques partagent la première place avec Génération Foot qui a également sorti vainqueur de sa confrontation contre Ndiambou de Louga. Les deux équipes totalisent 15 points. Pour les autres résultats, notons le revers à domicile subi par le champion titre US Gorée 1-0 devant la Ligue de Saint-Louis. Casasport est arrivé à bout de Djaraf 2-0 et puis la S-Douane a battu US Wakam 2-1.
En Angleterre, la première ligue est en fête avec la 19e journée qui a vu Chelsea consolider sa première place.
Exactement Idrissa, les Blues n'ont pas raté l'occasion en battant Stoke City 4 buts à 2. Liverpool, lui, s'est adjugé le choc de cette 19e journée. 1-0 face à Manchester City. Les Reds, second au classement, ont renvoyé les Citizens à la 5e place derrière Tottenham qui a étrié Watford 4 buts à 2. Arsenal, 3e au classement, a battu Crystal Palace 2-0 et monte sur le podium. Les Gunners sont toujours à 9 points de Chelsea, le leader. Et puis, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat professionnel nord-américain de basketball.
San Antonio, Atlanta 112-114, Detroit, Miami 107-98, Orlando, Indiana 104-117, Portland, Minnesota, 95-89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans le cadre de notre série rétrospective 2016, où l'on passe en revue les événements marquants de l'année qui vient de s'achever et les perspectives de celle qui commence, aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Tchad et la Guinée-Bissau. D'abord le Bénin, quel bilan peut-on faire de l'année 2016 dans ce pays et quelle perspective pour l'année 2017 de Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Le Bénin a connu un changement sur tous les plans en 2016. Cela a commencé le 6 avril par l'élection de Patrice Talon, opérateur économique, resté des années en exil parce que soupçonné d'avoir voulu porter atteinte à la vie de l'ancien président Yahi Bouni. Le chemin ayant conduit à l'élection de cet homme d'affaires a été jalonné de bien de difficultés. Indisponibilité des cartes d'électeurs, report de l'élection présidentielle, propos discutés entre candidats, campagne électorale sous fond de tensions, de montages grotesques et de diffamations tous azimuts. Mais contre toute attente, l'homme d'affaires a été porté au pinacle de la gestion de la chose publique et les réalités du pouvoir se sont imposées à l'homme. En moins d'un an de gestion, certains sont arrivés à regretter le fait d'avoir confié leur vote à Patrice Talon. Aujourd'hui encore, en regardant dans le rétroviseur, ils pensent que le pays n'est pas mieux géré.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue parce que diriger un pays, ça se prépare. Le poids est complètement tombé. On nous parle de 2,462 milliards de dettes. Ça, c'est la totale, ça. C'est faux. L'audit ne doit pas être un moyen de chantage politique.
Cherté de la vie, suspension d'un bon paquet de sociétés avec à la clé plusieurs personnes renvoyées au chômage. L'année 2016 a eu un goût amer chez certains. Pour l'aspect en gouvernance, Joël Ataï-Guedegbe, le refus de communiquer opté par le gouvernement reste une difficulté majeure.
Et ce qui aura vraiment frappé, c'est à la limite son manque d'ouverture à l'information des citoyens. Et bien que des décisions aient été régulièrement annoncées et prise tantôt de manière surprenante, tantôt même de manière attendue. D'où le paradoxe aussi de cette gouvernance qui est caractérisée par une volonté de rupture avec le passé, mais qui ne met pas suffisamment en exergue les sanctions dont sont l'objet et ceux qui ont été coupables de ces actes-là.
Mais fort heureusement, peut-être, le gouvernement a saisi le dernier mois de l'année 2016 pour présenter un plan d'action, une feuille de route pouvant permettre de remettre le pays sur le rail du développement, redonner espoir aux Béninois. Le ministre d'État chargé de l'action gouvernementale, Ablaye Biotchale, en parle ici.
Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel, où nous commençons par la réforme de notre système partisan. Et enfin, sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base. Une fois que nous avons engagé ces réformes et pendant que nous mettons en œuvre ces réformes, nous investissons massivement dans tous les secteurs de l'économie.
Le chef de l'État mesure d'ailleurs la taille du défi qui lui incombe et le jour de la présentation du plan d'action de son gouvernement, il a réitéré son intention de contribuer efficacement au développement du Bénin.
Comme je l'ai eu à le dire plusieurs fois pendant la campagne, je ne vais pas vous décevoir. Mon équipe ne vous décevra pas. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini sera mis en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Faites-nous confiance.
Si 2016 a été une année de grands bouleversements et de changements, 2017 n'en fera pas défection, puisque dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a rappelé aux Béninois la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre ensemble la croissance voulue. Et c'est loin d'être le discours qu'attendaient les Béninois qui crient famine, chômage et bien d'autres encore. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Niger, notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'est tourné vers le professeur Issoufou Yayaha de l'université de Niamey pour discuter des perspectives 2017 du pays au plan politique, social et sécuritaire.
Sur le plan politique d'abord, il faut s'attendre à ce que l'autorité du président de la République soit fortement contestée, que ce soit dans son camp ou du côté de la société civile et de l'opposition. Puisqu'il a dit ne plus se présenter au présidentiel, eh bien il faut que le parti essaie d'asseoir une autre autorité. Une guerre de succession semble avoir commencé et le président actuel du parti, M. Bazoum, est en train de poser des actes de nature à faire de lui le maître ou le futur maître de la situation. Donc, M. Bazoum est en train d'effacer M. Brice Irafeni, de l'évincer pour véritablement, puisque dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre est le chef de la majorité. Or, M. Brice n'est pas le chef de la majorité, le vrai chef, c'est M. Bazoum. Je pense que peut-être ça sera la consécration pour lui sur le plan politique. Sur le plan social, tout dépendra de la mobilisation des ressources par le gouvernement. S'il n'arrive plus, comme ça a été le cas en octobre, novembre, décembre, à honorer les salaires en temps et en heure, je pense qu'il aura les syndicats, il aura surtout les enseignants. Et je pense qu'il y a déjà un trimestre de raté. Si jamais, à partir de février, vous savez, traditionnellement, c'est une montée de la contestation, on rate encore un autre trimestre, c'est l'année qui va malheureusement être compromise. Et ça, je crois qu'il aura la population, il aura les parents, il aura les élèves et étudiants. Et ça, je pense que ça peut être préjudiciable à la gouvernance actuelle. Maintenant, sur le plan sécuritaire, je pense qu'il faut s'attendre Boko Haram, quoi qu'on dise. Le Nigeria est monté en puissance. Il dit avoir pris la maîtrise de la possession même ou le contrôle de la forêt de Sambisa. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que les attaques aussi se déplacent puisque le centre de commandement et le centre même des opérations va se déplacer. Je pense qu'on va avoir des petites cellules autonomes quelque part, pourquoi pas sur le territoire nigérien, il faut s'attendre à cela. Et puis au Mali, avec les djihadistes, je pense qu'ils n'ont pas dit aussi leur dernier mot, il faut s'attendre à quelques attaques sporadiques et meurtrières aussi.
C'était le professeur Issoufou Yayaha de l'université de Niamey au micro d'Abdulrazak Idrissa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, 2016 a été une année sombre dans le domaine social. Les fonctionnaires, les retraités, les maîtres communautaires, les étudiants, bref, toutes les couches sociales ne cachent pas leur pessimisme, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
L'avenir du Tchad en 2017, c'est un chaos total.
Les enfants ne partent pas à l'école. Dans les hôpitaux, c'est fermé. Moi, je dois voir que les Tchadiens vont peut-être vider le Tchad pour aller ailleurs.
Lui, c'est Balanyanga Jonathan, coordonnateur national des maîtres communautaires, une couche qui semble être abandonnée par le pouvoir public. Car à ce jour, les maîtres communautaires accusent 30 mois d'arriérés de subsides. Et pourtant, leur prestation n'est pas à négliger dans l'évolution du système éducatif tchadien. L'inspecteur du Trésor, Mohamed Nouri Bedou, doute du lendemain meilleur pour les Tchadiens.
Les perspectives économiques ne paraissent pas encourageantes. On prend les crédits qui ne sont pas utilisés, on les régularise avec l'argent pris en dépenses avant ordonnancement. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Si le gouvernement continue les mêmes tergiversations, 2017 va être encore plus sombre que 2016. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous prédisons une implosion. Il faut que cette gouvernance change. Sinon, nous allons au-devant des perturbations sociales très difficiles.
Les syndicalistes, quant à eux, exigent un dialogue franc et sincère afin de booster l'économie en 2017. Barka Michel est le président de l'Union des syndicats du Tchad.
Si le gouvernement peut nous sortir de cette situation, nous avons des propositions à lui faire. Beaucoup.
Entre autres, essayer de mettre de l'ordre dans les régies financières. Les gens qui sont morts,
qui continuent à être avancés et payés. Il y a des fonctionnaires qui sont là sans diplôme. Les gens qui, au nom des accords militaires, sont rentrés. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas obliger le gouvernement à couper les salaires des fonctionnaires.
2017, comme prédit le syndicaliste, s'annonce encore plus difficile pour les travailleurs tchadiens, du moins ceux qui vont oser aller en grève pour revendiquer leurs droits. À l'issue d'un conseil de cabinet tenu le 22 décembre 2016, un projet de loi portant modification de la loi numéro 008 du 9 mai 2007 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans le secteur public a été adopté par les membres du gouvernement. Lequel projet de loi vient d'être voté ce 30 décembre 2016 à l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés du parti au pouvoir. Abdelkerim Seyd Bouch, ministre de la fonction publique, salue l'acte posé par les députés de la majorité.
La modification qui a été faite essentiellement au niveau de l'article 15, les syndicats peuvent faire la grève, mais il ne faudrait pas que ça soit des grèves sèches, comme ce que le gouvernement subit actuellement. Mais à partir d'une certaine période, c'est les initiateurs de grève qui vont assumer les charges salariales, en quelque sorte. Et c'est le vœu du gouvernement de pouvoir sortir de cette crise.
Pour les députés de l'opposition, l'adoption de cette loi est une déclaration de guerre contre les syndicalistes en 2017. Parka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, donne déjà le ton.
La liberté syndicale et le droit de grève sont dangereusement menacés. Nous devrons nous battre. Nous allons refuser la dictature. C'est une autre forme de travail forcé. Cette décision, nous allons l'attaquer au niveau du Bureau international du travail.
Contacté par VOA Afrique pour avoir une idée sur la perspective du Tchad en termes des finances en 2017, le ministre des Finances et du Budget a opposé un refus poli. Bonne et heureuse année 2017 à tous. André Koduma Djingar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée-Bissau, 2016 a été marqué par une série de désaccords profonds entre le président, son premier ministre et son propre parti. De Bissau, notre correspondant Nouha Mankali.
L'an 2016 était une continuation de la crise politique implantée en 2014 lors du dernier congrès ordinaire du PSGC et puis aggravée en 2015 avec la démission du gouvernement de Domingos Simons Frera, maintenant avec des crispations personnelles et politiques pour atteindre le pire, reléguant à l'arrière-plan la situation politique et sociale grave le pays. Les écoles publiques ont été fermées pour la plupart de la première période en raison d'une grève générale des enseignants. À celle-ci s'ajoutent les détériorations des équipements et des services de santé, la suspension de nouveaux projets d'infrastructures routières et l'activité législative paralysée. Même dans le football que les Bissau-Guinéens aiment tellement, le championnat a été interrompu à mi-chemin en raison de la prétendue absence des fonds alloués par le gouvernement. La Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains a émis un avertissement au début du mois de décembre que la crise pourra empêcher le pays de bénéficier des soutiens ou des appuis des partenaires au développement en raison de l'absence d'un gouvernement légitime pour établir ses appuis. C'est toujours un retour habituel au point de départ en Guinée-Bissau où jamais un gouvernement termine son mandat respectif jusqu'à la fin de sa législature. D'autre part, l'instabilité fait qu'il y a moins de contrôle des biens publics et la Ligue des droits humains a affirmé que la corruption a augmenté dans l'appareil de l'État. Cependant, cette crise s'est encore approfondie entre le président José Mario Vaz et le PSGC avec la démission des deux deuxième gouvernement dirigé par le vétéran Carlos Correa en tant que premier ministre de la législature et d'introniser un gouvernement formé par le principal parti de l'opposition, Parti de Rénovation Sociale Pérez, et les 15 députés dissidents du PSGC. Mais sans contrôle du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire dans les mains du PSGC, cette nouvelle majorité parlementaire n'a jamais pu convaincre l'Assemblée nationale populaire pour travailler et ce gouvernement a fini par tomber. Le quatrième premier ministre de cette année était celui de Omar Sissoko, un général de 44 ans dans la réserve, une figure inconnue dans la classe politique du pays et qui n'a pas généré de consensus entre les partis en dépit de l'accord de Conakry mendié par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour résoudre la crise bissau-guinéenne. Dans les rues de la capitale Bissau, il y avait eu des manifestations organisées qui ont réuni autour plusieurs centaines de personnes pour demander la démission du président José Mario Vage, mais finalement interdite est même opprimé par le gouvernement de la nouvelle majorité, chose qui a été considérée par la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme comme un signal de recul dans le domaine de la liberté de manifestation. L'organisation a aussi dénoncé la tentative d'imposer un nouveau régime dictatorial avec la censure sur les manifestations de la radio nationale et de la télévision de la Guinée-Bissau pour faire taire la population.
C'était Noah Mankali, Le Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde et Jean-Roger Billon pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.